8h42 ici à Paris, tout de suite le dernier journal des sports de la matinée. Et on vous retrouve Antoine Grenier. La Ligue 1 en France, 8 mois après, Nabil Bentaleb s'offre un retour inespéré.
Victime d'un arrêt cardio-respiratoire lors d'un 5 entre amis, l'international algérien a retrouvé les terrains. C'est même lui qui ouvre le score contre Rennes en clôture de la 22e journée. Lille s'impose 2-0, garde le rythme des équipes de tête du championnat, mais surtout, faites comme il se doit, le retour d'un Nabil Bentaleb pour qui tout s'est accéléré cette semaine.
C'est un moment assez particulier pour moi. Je passe du tout au rien. Du jour au lendemain, je m'entraîne du jeudi et du vendredi. On m'annonce que j'ai potentiellement la capacité d'être dans le groupe. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer, on me dit de rentrer. Mais sur le corner, je savais un peu, je sentais que j'allais marquer. J'ai bossé très très dur ces derniers mois pour arriver à ce genre de résultat. Et maintenant, bien sûr, on retient ça, mais le plus important, c'est déjà ma santé. Ma famille, franchement, mon grand frère, ma femme, mes enfants, mes parents, mes sœurs. Franchement, c'est tout ce cercle très rapproché qui m'a permis de tenir pendant ces 8 derniers mois et me donner la possibilité de rêver à revenir un jour sur le terrain de football, et quelque part c'est pour eux que je le fais également.
Nabil Bentaleb chez nos confrères de DAZN. Lille 5e du classement devant Lyon qui a dominé Montpellier avec notamment un but et une passe décisive du Ghanéen Ernest Nouama.
En badminton, clap de fin sur les championnats d'Afrique à Douala.
Avec un constat, l'Afrique subsaharienne est encore à la peine, notamment faute d'infrastructures adaptées, mais avec un espoir aussi car cette édition organisée au Cameroun a cherché à encourager les efforts de promotion de la discipline. Joël Wadé.
C'est la première fois que les championnats d'Afrique de badminton se tenaient en Afrique centrale. En réussissant le pari de l'organisation, Odette Ngulu Asembe, la présidente de la Fédération Camerounaise de badminton, a prouvé que la discipline est en plein essor au pays des lions indomptables.
Le badminton existe au Cameroun depuis 1999. Nous sommes partis de la 17e place à la 6e place sur le plan africain. Il y a des open nationaux qui permettent de vulgariser la discipline.
Traditionnellement, c'est dans une salle que se pratique le badminton. Mais compte tenu des difficultés des pays africains à construire des infrastructures, une solution a été trouvée pour mettre cette discipline à la portée de tous. Michel Beau, le président de la Confédération africaine de badminton, en parle.
Nous avons introduit ce qu'on appelle Air Badminton. C'est un sport qui se joue dehors, sur la plage, sur les gazons, n'importe où. L'équipement, c'est vraiment facile à amener. Nous avons fait la première compétition Coupe d'Afrique de Air Badminton qui s'est déroulée en Tunisie, et c'était un succès. Avec les Air Badminton, ça permettra aux pays africains d'avoir accès au badminton.
14 pays ont répondu présents au 28e championnat d'Afrique de badminton. Une preuve que la discipline inscrite aux Jeux Olympiques depuis 1992 est en plein essor sur le continent. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Des championnats d'Afrique qui auront été sans grande surprise au niveau du palmarès, avec les sacres de l'Égyptienne Nohamed Yousri et du Nigérian Juwono Peyori en simple. En double, les équipes algériennes chez les messieurs et sud-africaines chez les dames ont été couronnées.
Et puis du cyclisme, Antoine. Yao Ala Kwame, élu président de la Confédération africaine.
L'Ivoirien met fin au règne de l'Égyptien Mohamed Wagi Azam à la tête de la CAC depuis plus de 20 ans et sur ses terres, puisque c'est au Caire que le président de la Fédération ivoirienne a été élu, recueillant 25 voix contre 24 à son adversaire. Une élection à un moment important pour le cyclisme africain qui organisera fin septembre les premiers championnats du monde sur route sur le continent. Ça sera à Kigali, au Rwanda.
Le rendez-vous est pris. Merci Antoine Grenier. Tout de suite le reportage Afrique. Au Bénin, on vous en a parlé ce matin. Nouvelle attaque samedi revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui annonce 8 soldats tués, 6 disent des sources haut placées. Ce n'est pas sans rappeler cette autre attaque revendiquée le mois dernier par le même groupe et qui a coûté la vie à plus de 30 soldats dans la zone dite du point triple à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Magali Lagrange, notre envoyée spéciale, s'est ainsi rendue sur place pour une série de 4 reportages. Le premier d'entre eux à Binakwara, où la situation sécuritaire est dans toutes les têtes et où les habitants adaptent leurs habitudes, surtout le soir venu. Reportage.
Les commerces sont ouverts à Binakwara Centre. Issiako attend les clients derrière la grille de son kiosque jaune et bleu.
C'est mon activité, ça. Je fais transfert d'argent et je vends des crédits aussi. Avant, ça marche. Mais maintenant, c'est la patience. Le temps est un peu dur. Dans la journée, comme ça, on ne vend pas. C'est le matin et le soir. Et maintenant, le soir aussi, notre temps est limité. Je quitte ici à 20h30 pour ma sécurité aussi.
Plusieurs sources locales évoquent le transport de carburant par des jeunes soupçonnés de ravitailler les groupes armés.
Des fois, les militaires viennent pour embarquer certaines personnes. On leur dit que, bon, vous avez transporté les bidons d'essence, amener ça de l'autre côté de la commune. parce qu'il y a certaines localités, tu ne peux pas aller là. Si on te prend là, là, c'est toi seul, tu vas subir les conséquences. Nous-mêmes, on ne se retrouve pas. Hein.
À côté de lui, des émis de gens, des mototaxis patientent à l'ombre. Ce jeune homme, casque sur la tête, s'arrête sur un côté de la voie pavée.
Ah, vraiment, il y a la peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si on prend, on voit que c'est quelqu'un, il est djihadiste, on ne sait pas où. C'est pour cela qu'on a toujours peur de faire même le travail. Par exemple, les lieux interdits d'aller à cause de l'insécurité, là. Comme Djumbaro, Kabaro. Au niveau des Mekrou, on ne peut pas aller tous ces liens-là. Tu pars là-bas, on va te qualifier comme tu es aussi djihadiste ou bien comme si tu es aussi un criminel. Donc ça fait qu'on reste toujours en ville.
Brouettes, motos et piétons circulent dans les rues adjacentes. Ce jeune homme vend des produits alimentaires avec son père. L'activité marche bien. C'est surtout le soir que la vie a changé.
La nuit, il y a les militaires qui font la patrouille. Donc à partir de 0h du genre, il n'y a pas trop de promenade donc. Et en confinement, on dirait. Ah bon, avant, j'avais l'habitude de me promener un peu aux alentours de 22h et aller jusqu'à 0h, 1h comme ça. Mais dès que les militaires ont commencé, du coup, à 22h, déjà, je suis à la maison. On entend des frappes ailleurs, on entend donc. On ne sait pas quand est-ce que ça vient chez nous. Mais quand même, pour l'instant, ça va.
Il n'y a officiellement pas de couvre-feu à Banikoara Centre, mais de sources locales, plusieurs villages de la commune, riverains du parc W et frontaliers du Burkina Faso, sont concernés de 18h à 6h du matin. Magali Lagrange, de retour de Banikoara, RFI.
Premier de ces 4 reportages dans le nord du Bénin, une série à retrouver en intégralité d'ici jeudi sur l'ensemble des plateformes d'écoute de Radio France Internationale. L'Italie, décidément au cœur de nos chroniques économiques de ce lundi, après s'être penchée sur la balance commerciale de Rome dans aujourd'hui l'économie, on reste de l'autre côté des Alpes, dans Afrique économie. La semaine dernière s'est tenu dans la capitale le rendez-vous annuel du Fonds international de développement agricole, le FIDA, mais aussi le Forum des peuples autochtones. Et si ces deux événements se complètent, c'est que le FIDA est persuadé du rôle à jouer de ces peuples dans la lutte contre la malnutrition. Pour autant, leur reconnaissance et leurs pratiques sont mises en péril. Ainsi, Charlotte Cosset, les aider à accéder à la finance internationale et notamment climatique devrait être un levier important.
Les peuples autochtones évaluent qu'1% seulement de la finance climatique leur revient directement. Hilaria Firmian est analyste senior sur ces questions au sein du FIDA.
Souvent, les structures financières multilatérales et bilatérales ne sont pas suffisamment flexibles parfois pour donner un accès direct aux organisations des peuples autochtones. Non, c'est plutôt aux grandes ONG internationales. Et je pense aussi qu'il y a un petit peu un manque de confiance vers les organisations des peuples autochtones.
Un diagnostic partagé par le Congolais Albert Baroumé, rapporteur spécial des Nations Unies sur les peuples autochtones.
Il y a toute cette discussion de financer les autochtones, les organisations autochtones par intermédiaire, de penser qu'ils ne sont pas capables de digérer, de tenir des comptabilités. Il y a toute cette perception des préjudices stockés dans nos subconscients et qui, en fait, constituent la base de tous ces outils qu'on met en place, mais qui finissent par discriminer certaines personnes.
Pour lui, pas de secret, il faut permettre un accès plus direct au financement à ces populations.
S'il n'y a pas de diminution ou allègement ou simplification de ces procédures, je ne pense pas que ces mécanismes de financement seraient justes. Je pense que c'est un défi qui reste quasi entièrement à relever parce qu'on est dans ce paradigme de penser que pour accéder à un financement, il faut être en mesure de remplir tel formulaire, de tenir une certaine sorte de comptabilité, de suivre certaines règles, d'avoir un minimum de connaissances. Mais comment on fait si on continue à nourrir les mêmes cibles et on ignore une grande masse qui n'a pas ces capacités?
Il y a quelques années, le FIDA a mis en place le mécanisme d'assistance pour les peuples autochtones, l'IPAF, Hilaria Firmian.
Un mécanisme dans lequel on donne des petits dons directement à des projets qui sont formulés et mis en œuvre par des communautés autochtones elles-mêmes. Et on reçoit un nombre incroyable de demandes. C'est un mécanisme qui est reconnu pour bien fonctionner, mais pour vous donner une idée du manque de finances, on a reçu pour les derniers cycles quelque chose comme 650 50 propositions et on a été en mesure d'en financer 53.
Le FIDA finance par exemple en Éthiopie un projet axé sur la préservation de l'anset, une sorte de banane locale dont les racines sont consommées, très résistantes mais menacées notamment par les nouveaux types d'agriculture.
Charlotte Cosset pour la chronique Afrique Économie. Vous la retrouvez sur l'application RFI Pure Radio. Et ça danse en studio, la fin des RFI matin en musique avec vous, Olivier Roger. Bonjour.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous présentez le nouvel album du saxophoniste Adrien Soleiman, Bel Jazz Club, ce jazzman donc venu à la pop musique avec des idées rafraîchissantes. Et on l'entend sur ce titre, hein, When the Magic Happens. Quand survient la magie, où chante la française Allo Mode, Adrien Soleiman est un rassembleur de talents.
Un rassembleur de talents et un homme qui ne se déplace qu'en bande, une bande d'instrumentistes et d'amis qui privilégie la virtuosité, l'énergie du collectif, sans jamais tomber dans les pièges d'un orchestre trop formaté. Et pour cela, lors de l'enregistrement de l'album, Adrien Soleiman, qui avait rassemblé ses musiciens en studio, a doublé ses équipes en formant des binômes à la batterie, à la basse, à la guitare, ce qui donne une fraîcheur sans cesse renouvelée. Petit exemple avec ce titre Panorama. Joli voyage au son de la trompette de Adrien Soleiman. Sachez que c'est seulement son deuxième album en 10 ans.
Deux albums en 10 ans. Pourtant, le musicien est devenu incontournable dans le paysage musical français.
Oui, il est altruiste, le trompettiste. Il a longtemps pensé aux autres avant de penser à lui. C'est un musicien et un producteur que l'on s'arrache dans les coulisses de la scène parisienne. Juliette Armanet, Malik Djoudi, en passant par Philippe Catherine, dont il a composé pour partie le dernier album Zouzou, tous veulent travailler avec lui, car Adrien Soleiman apporte des idées du talent au nom d'un partage qu'il juge essentiel à la musique. On continue d'explorer son album Bel Jazz Club avec ce titre Les Enfants. Bel Jazz Club est une odyssée musicale qui traverse des paysages sonores, allant du jazz à la pop, en passant par un soft rock vintage. Et comme le dit lui-même Adrien Soleiman, dont les racines créoles et libanaises sont une invitation à vivre ensemble, le jeu collectif procure un plaisir infini.
Allez, on se quitte avec un titre de circonstance. Petit matin. Merci Olivier.
Merci à vous. On dédie ce titre à tous les matinaliers, petit matin.
C'est gentil de penser à nous.
On y va. Thank you.
Bel Jazz Club du saxophoniste Adrien Soleiman. C'était le choix musical d'Olivier Roger du service culture de RFI. 8h57 ici à Paris. Demain, à la même heure, on vous dévoile le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Découverte RFI 2025 qui, pour succéder à la rappeuse congolaise JCB, suspend ses réponses donc ce mardi en présence notamment de la directrice du jury, Angélique Kidjo. 8h58 ici à Paris. C'est en musique donc que s'achève cette édition d'RFI Matin. Merci à Christophe Pernet qui m'a accompagné à la réalisation tout au long de ces 3 heures. Merci à vous également, fidèles auditeurs. Tout de suite, vous retrouvez Chantal Laureau pour rappel sur l'actualité. Bonjour Chantal.
Bonjour.
De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Eh bien, du rapport de la Cour des comptes au Sénégal, un rapport très sévère sur la gestion des finances publiques. Il déplore des irrégularités, manquements, anomalies de gestion sous la présidence Macky Sall. Qu'en pensez-vous ? On vous attend pour en débattre. Le camp Macky Sall réfute toutes les accusations et dénonce une machination politicienne. Voilà, on en débat donc dans quelques minutes après le journal, le nouveau point de RFI sur l'actualité. Journal présenté par Martin Guez.
C'est ça.
Ok. À tout de suite.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi tout migre ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Arrêt sur l'image de nos migrations, humaines mais aussi animales et végétales, dans deux expositions conjointes, au Musée de l'Homme à Paris et au Muséum de Bordeaux. Pourquoi et comment tous les êtres vivants sur Terre sont des migrants ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Objectif 8e de finale, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer sa large victoire à Brest 3-0. Les barrages retour de la Ligue des Champions, ce sera à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur RFI à partir de 19h40 TU.